entre les bushmen, au Kasai oriental. J'ai réduit totalement cette
histoire. Moi, j'ai essayé de combattre au Kasanga. Je pense qu'en me rencontrant les deux, la tête de mes présidents, trouver une solution par rapport à ça.
Bonjour à tous et merci d'avoir choisi Radio Capi qui vous propose parole aux auditeurs. Certains gouverneurs des nouvelles provinces en RDC ont totalisé 100 jours dans l'exercice de leurs fonctions de chef d'exécutif provincial. Plusieurs d'entre eux ont initié des projets de développement de leur province en vue notamment de relever les défis liés à la problématique de l'urbanisation, de la mobilisation des ressources propres des provinces ainsi que d'autres entités territoriales décentralisées. Et la question majeure de la cohésion provinciale. Que pensez-vous du bilan de l'exercice politique de ces différents exécutifs provinciaux? Rejoignez-nous au 081 890 75 pour vos interventions en direct. Mais le débat se déroule également sur la page Facebook des Paroles au Sol du Cœur. Hippolyte Kapanga assure la mise en onde de ce magazine coordonné réalisé par J.R. Lundembo. Piero et la Mèche a le réel plaisir de vous les présenter sous la supervision de Martin Sebougian, vos fidèles auditeurs. Bienvenue à tous.
Pour participer à Parole aux auditeurs, 081 890 63 15 ou par internet pa@radiocapi.net. Parole aux auditeurs, Piero et la Mèche.
Certains gouverneurs, comme je le disais, de nouvelles provinces ont totalisé 100 jours dans l'exercice de leurs fonctions. Les autres ont déjà des gouvernements provinciaux, les autres n'ont pas encore de gouvernements provinciaux dans leur milieu. Mais nous nous intéressons ensemble au premier pas des nouvelles provinces en termes des projets réalisés, mais aussi des annonces, mais des initiatives qui ont été prises dans votre milieu, que ce soit pour la mobilisation de ressources, pour le projet de base, mais aussi la cohésion au niveau des provinces. C'est la question au centre de notre échange. Et cette émission s'adresse particulièrement à tous nos auditeurs qui nous écoutent en province et surtout dans les nouvelles provinces qui ont été créées récemment. Vous avez la possibilité de nous rejoindre sur la page Facebook des Paroles aux auditeurs où les débats se déroulent en ce moment même avec les internautes, mais également en direct au 081 890 735. Pour les Ojan, vous nous appelez d'Istiro, c'est dans la province de Haute-Uélé, je crois bien. Bonjour et bienvenue dans cet échange.
Merci beaucoup, bonjour mon frère et bonjour à tous les auditeurs de la radio.
Et je crois qu'il y a une particularité pour ici, la province de Haute-Uélé, c'est comme toutes les autres provinces du sud de l'ancienne province orientale, c'est que le gouvernement provincial n'a pas encore été investi. Est-ce que vous pouvez confirmer cette information?
Oui, c'est vrai. Vous savez que les gouverneurs ont été investis, les vice-gouverneurs, au mois d'avril, depuis donc le 15 avril 2016. Mais jusqu'à ce jour, on n'a pas encore de gouvernement investi.
Et quelles sont les causes alors de ce retard dans l'investissement de gouvernements provinciaux?
Bon, les causes... Bon, ce sont les gouverneurs qui maîtrisent très bien toutes ces causes parce que on les a investis le 15 avril. Ils ont publié le gouvernement en ce qui concerne les Haute-Uélé vers le 15 juin, pratiquement 2 mois après, et pour les touristes. Donc on a nommé les ministres au mois de juillet et la CHOP de la même année. La CHOP c'était au mois de juin, mais ça traînait, on n'a pas investi le gouvernement avant qu'on aille en vacances. Sauf pour les bases UNE, là où le gouverneur a tout fait pour investir son gouvernement avant d'aller en vacances. Donc les autres n'ont pas pu le faire, tout simplement parce que soit ils ne voulaient pas, soit ils étaient en déplacement, parce que la plupart de ces gouverneurs n'ont pas résidé au niveau de la province après l'heure d'investiture. Donc ils ont préféré rester ailleurs que de rester dans leurs provinces respectives. Mais à ce qui concerne leurs actions, nous pouvons dire que nous sommes devant une situation de blocage total, parce que, d'abord, la difficulté vient du fait que les élections qui ont été organisées n'ont pas été des élections crédibles, du fait que, vous savez, on choisit les candidats au niveau de la majorité présidentielle. Il y a beaucoup de critères, des critères de clientélisme et toutes sortes de corruptions qui entourent ces élections. Et ça, c'est la première des difficultés. Quand on arrive aux affaires, on n'a pas un programme bien établi, on a du mal à démarrer. Ça, c'est vraiment un problème. Et de deux, c'est le problème des moyens. Les moyens, le gouvernement de la République avait promis les moyens pour les nouvelles provinces. Mais au moment où nous parlons, nous ne savons pas si ces moyens existent ou ça n'existe pas. Parce que le gouverneur des nouvelles provinces, ces nouvelles provinces, ce sont des provinces, pour la plupart des provinces, complètement enclavées. Et ces provinces ont du mal, elles n'ont même pas des recettes propres pour démarrer les actions sur terrain. Mais ce qui est encore plus grave, c'est qu'on voulait convoquer des sessions extraordinaires pour rattraper les retards. Mais malheureusement, nous avons suivi encore qu'il y a une lettre du ministre de l'Intérieur qui interdit au président des assemblées provinciales de convoquer des sessions extraordinaires. Uniquement cette lettre concerne la province ex-province orientale. Nous nous posons la question de savoir pourquoi on fait des sessions extraordinaires ailleurs, mais au niveau de la grande province orientale, on interdit la convocation des sessions extraordinaires. On a nommé le ministre, ce ministre va demeurer éternellement sans être investi. Ce ministre qui devrait aider le gouverneur et le vice-gouverneur à tenir les actions sur le terrain pour booster donc le développement des nouvelles provinces. Voilà, nous sommes maintenant complètement bloqués. Nous ne savons pas comment évoluer.
On a évoqué, je crois bien, on aurait évoqué la question de moyens, des finances qui bloquerait bien sûr cette situation. Mais alors, pour revenir, parce que le gouverneur et le vice-gouverneur, ils sont déjà là, par exemple, dans les Hautes-Huées, n'y a-t-il pas eu aujourd'hui des initiatives locales initiées au niveau pour voir comment affronter le problème? La province, elle est là, le gouverneur est là, le gouvernement n'est pas encore investi. Y a-t-il quand même des actions qui ont été menées aujourd'hui, presque 100 jours après, pour les uns et les autres?
En ce qui concerne les 100 jours dans la province du Haut-Uélève, c'est comme j'ai dit au début, le gouverneur, il a passé beaucoup de temps en dehors de la province. Et si on fait la sommation des jours qu'il a passé au niveau de la province orientale, après son investiture, on ne peut pas atteindre 15 jours. Donc, c'est pratiquement difficile. Mais ce qu'on a posé comme action, c'est tout simplement la réhabilitation des bâtiments qui abritent le gouvernorat pour le moment. À part cela, je ne vois pas d'autres actions, mais il y a des initiatives, il y a des projets qui concernent la réhabilitation de certaines routes, mais ces projets n'ont pas encore subi leur début d'exécution. Nous attendons qu'on puisse commencer avec ces travaux. Mais les gouverneurs et les vice-gouverneurs n'ont pas les droits d'attendre l'investiture du gouvernement. Parce qu'eux, ils sont investis par l'ordonnance du chef de l'État. Par conséquent, ils peuvent poser valablement des actions sur le terrain. Mais il fallait que ce gouverneur fasse tout pour que leur gouvernement soit investi avant d'aller en vacances, parce que ça coûterait moins cher. Pour le moment, comme nous sommes en vacances, convoquer une session extraordinaire, c'est vraiment, ça va coûter sur le budget de la province, bien que nous n'avons même pas un budget, parce que vous savez, à l'Équateur, chez Makila a tout fait, il a voté le budget avant même que les députés aillent en vacances, donc ils travaillent sur base d'un budget bien établi. Mais nous, ici, nous travaillons sur base d'aucun document, il n'y a pas de programme, il n'y a pas de budget, il n'y a pas un gouvernement investi. Donc nous sommes dans une situation de tâtonnement, parce que nous ne savons pas là où nous partons, et les fonds sont sortis sur base de quels documents, nous ne savons même pas.
Voilà, et là ça risque d'aller en confusion. Alors, il y a cette préoccupation, pour le monde avant de vous libérer, l'article 11 de la loi des programmations déterminant les modalités d'installation de nouvelles provinces. À l'article 11, il disait ceci: dès l'installation des nouvelles provinces, le gouvernement de la République initie en concertation avec les autorités provinciales un programme d'équipement, de réhabilitation et de construction des infrastructures nécessaires au fonctionnement des nouvelles provinces. Avez-vous l'information que ce programme a été initié entre le gouvernement central et les autorités provinciales pour agir plus rapidement, comme c'était prévu au niveau de la loi?
Je crois que la loi était là pour tout simplement pour faire, donc c'était pour une consommation extérieure. Donc ce n'est pas pour poser des actes comme c'est prévu dans cette loi-là. D'ailleurs, nous sommes complètement en difficulté parce que même la dotation ou la dotation réservée aux différentes institutions provinciales pour la rétrocession a été prévue à la baisse, et alors que les nouvelles provinces devraient avoir plus de moyens pour essayer de résoudre les différents problèmes qu'elles ont sur terrain.
Mm-hmm.
Pour nous, dans les Hauts-de-Seine, pratiquement, on n'a pas de route. Pratiquement, donc, il n'y a pas de route pour accéder au chef-lieu de la province. Et, il n'y a pas de bâtiment pour abriter les différents ministères. Il n'y a pas de bâtiment
voilà.
pour abriter
autant de problèmes, et c'est là aussi la nécessité de pouvoir investir les gouvernements provinciaux. Et puis, et surtout, recourir à cet article 11 de la loi comme c'était prévu. Merci beaucoup, Paulin Mojane, pour tous ces témoignages. Nous pensons que tout sera mis en marche pour que le Haut-Uele et toutes les autres provinces, ici de l'ancienne province orientale, puissent avoir les gouvernements provinciaux investis et que les gens se mettent au travail vu les difficultés auxquelles font face ces autorités et ces provinces. Merci beaucoup de votre témoignage. Maître Sonville, vous êtes à Lubumbashi dans le Haut-Katanga. Bonjour. Bienvenue.
Bonjour, M. Thiro. Bonjour à tous les auditeurs de la radio aussi. Bonjour à tous les auditeurs également.
Nous sommes ensemble avec vous, auditeurs, pour faire le point sur les 100 jours. Alors, quand vous regardez, vous avez suivi les témoignages, chaque province a un problème particulier. Peut-être qu'il y a des problèmes qui peuvent se croiser dans les difficultés, les besoins. Mais dans le Haut-Katanga aujourd'hui, quand on peut faire le point des 100 jours, si on en a déjà atteint, les défis qui restent à relever, on vous écoute, Maître Sonville.
Dans le Haut-Katanga, contrairement à notre prédécesseur, le gouvernement a été investi, il y a même le budget qui a été fait. Mais normalement, il se pose beaucoup de problèmes sur tous les plans. C'est-à-dire que moi, je dirais que le 100 jours, c'est un bilan tout à fait négatif. Pourquoi je dis cela? Sur le plan administratif, M. Thiro, le gouverneur de la province du Haut-Katanga a créé la panique dans le ménage des agents et fonctionnaires de l'État, qu'il a trouvé par rapport à une répartition de ressources humaines d'une manière unilatérale. Sur base de tribunal, ça respectait les normes exigées, l'être une système public. Il a tout à fait bon. Il a recruté des gens, des agents de son droit, que lui-même appelle stagiaires en remplacement des agents virés, des agents expérimentés. La liste de ces nouveaux agents peut être même vérifié dans une banque de la place, dont je préfère faire. Il a procédé à la réduction personnelle des agents et fonctionnaires maintenus aujourd'hui. Le moins menti touche moins de 60 000 francs. Il a procédé à l'attribution qui est marquée sans appel d'offres, de gré à gré, et contre l'État, contre la loi. Ça, c'est sur le plan administratif. Mais sur le plan politique, depuis son avènement, nous assistons à une répression violente des manifestations de l'opposition. À quelques moments, l'opposition n'a pu manifester à l'avènement de ce libéré dans d'autres cas. Il y a de l'intolérance, l'instrumentalisation de la justice par des propos d'État et par des arrestations arbitraires et à des condamnations surtout des hommes de la Junapec sur le plan de 15 ans au-delà au moment où ils manifestaient pacifiquement. Sur le plan économique de ces jours, il y a quand même eu une initiative, il a été agricole, mais sans subvention. Comment est-ce que ce plan agricole pense qu'on dit quelque chose? Moi, je trouve que c'est une copie dit. Il y a maintenant, pour le moment, nous avons une hausse vertigineuse des prix des barres alimentaires de première nécessité. 5-5 sacs de farine de maïs aujourd'hui, qui coûtait 11 000, mais ça coûte aujourd'hui 17 000 francs. Un sac de sucre, qui coûtait, il y a de cela un mois, 35 000, aujourd'hui, ça coûte à 100, ça revient à 100 000 francs. À raison d'un verre de sucre à 500 francs.
Alors, maintenant, si nous regardons le tableau que vous avez de dresser, que ce soit sur le plan de l'administration, vous accusez qu'on ait recruté des gens sans tenir compte des prescrits de la loi, l'attribution de marché, ça c'est le tableau que vous êtes en train de peindre en ce moment. Mais alors, pour vous, comment alors on devait relever les défis de la nouvelle province du Haut-Katanga? Il fallait commencer par quoi pour vous qui est important aujourd'hui pour faire face aux vrais problèmes en dehors de ce que vous avez dénoncé?
Le vrai problème qui se trouve au Katanga, c'est le problème de la justice. Effectivement, il y a eu une initiative. Mais cette initiative doit ne prévoir absolument rien. Mais au lieu que le gouverneur puisse se baser des problèmes principaux, capitaux, qui concernent la province, le gouverneur se base à créer une certaine xénophobie. Et si je peux citer M. Gilles et M. Perrault pour répondre à votre question, en fait, on fait ici le plan de M. Perrault. il a réduit sensiblement les subventions annuelles aux députés Katanga, engagées dans les constitutions nationales. De 5 000 dollars à 5 000 dollars.
Oui, mais ce que je disais, maître, tout à l'heure, si nous devons prendre chaque secteur et chaque point dans les bilans, globalement, vous les jugez négatifs. C'est pourquoi maintenant, on voudrait savoir, pour vous, la priorité, c'est quoi aujourd'hui? S'il faudrait relancer cette nouvelle province, il faut aller par quoi d'une manière concrète?
Oui, la solution, c'est quoi? Vous savez, lorsqu'on remplace quelqu'un, il y a la continuité de l'action. Moi, je suis que je devais d'abord commencer par les routes de défense agricole.
Mm-hmm.
Et faire un peu de la réménager les routes de défense agricole, puisqu'à ce moment-là, les produits qu'on trouve dans des terres isolées peuvent être acheminés facilement au niveau des centres de ville, là où il y a carence de produits dans le matériel de première nécessité. Au-delà de ça, il devait maintenant voir comment est-ce qu'il peut réaliser cette époque qui préjudicie l'acheminement normal que c'est arrivé dans une forme. Et au-delà de ça, si je peux encore continuer.
Oui, il y a les derniers points.
Oui, maintenant, au-delà de ça, il devait aussi voir comment est-ce qu'il pouvait soutenir les petites et moyennes entreprises qui sont parsemées ici au niveau du Katanga. Et demander même aux entreprises, les entreprises privées, minières, de ne pas retraiter les gens, puisqu'aujourd'hui, nous souffrons avec le chômage au niveau du Katanga.
Mm-hmm.
Mais ce que je peux, ce que nous étions, surtout monsieur Piro, dans ce laps de temps qui occupe la province, il a rangé même sa résidence.
Alors, je crois que vous avez vraiment un véritable réquisitoire envers le gouverneur. Mais du moins, quand même, je retiens, au-delà de ce que vous avez dénoncé dans votre réquisitoire, qu'il faudrait utiliser les termes, que ce soit l'administration, la réduction des salaires, le problème de subvention des équipes, mais il y a des initiatives, telles que les villages agricoles, mais vous estimez qu'il n'est pas assez utilisé comme ça devait être pour la production. Mais pour vous, la priorité aujourd'hui pour le gouverneur, le gouvernement provincial du Haut-Katanga, c'est de s'attaquer au problème des routes et des dessertes agricoles, le problème des ponts, comment soutenir les petites et moyennes entreprises. Vous estimez que ce sont des actions comme ça qui peuvent améliorer le travail, le besoin de la population aujourd'hui. Mais parce que nous avons évoqué la cohésion au niveau des provinces, et là, vous auriez souhaité aussi qu'il y ait une révision de traitement en termes de libertés publiques et politiques au niveau du Haut-Katanga. Merci beaucoup, Maître Sonville. Élie, vous êtes en Bandaka. Bonjour Élie et bienvenue.
Bonjour, chers journalistes. Bonjour à tous les compatriotes de la République.
Et alors, pour vous, dans votre province, quels sont les points qui ont été marqués pendant ces quelques jours et les défis qu'il faut encore relever aujourd'hui?
Alors, merci de cette parole. D'abord, je commencerai d'abord à parler d'abord de la décentralisation. Quelle est l'une des voies qui nous condamne parmi lesquelles la RDC pourrait réussir son développement? La décentralisation devait faciliter la tâche de la multiplicité d'emplois de manière à mettre fin à la vitesse du chômage au Congo. Malheureusement, il y a un problème. Il y a un absentéisme notoire de la bonne gouvernance, comme une ligne de conduite. Alors, la crise et le service énorme du budget national influencent les dysfonctionnements manifestes des entités territoriales décentralisées. Le détournement des fonds, la médiation ou l'opération retour.
Et là, pour vous, Élie, ce sont les éléments que vous avez relevés dans la province de l'Équateur, je crois bien. Qu'est-ce que vous avez relevé?
Alors, quand je parle d'abord de la bonne gouvernance, je suis en train de saluer avec toute sincérité la personnalité administrative de notre gouverneur Tony Bolamba et tout ce qu'il fait dans notre province. D'abord, il est contre le détournement, il est contre la médiation, contre l'opération de retour, contre la malédamie de la corruption. Ce n'est pas le problème.
Alors, voilà. Et ça, sont les éléments politiques. Pour vous, le 100 jours, Élie, vous avez loué ce que les gouverneurs ont fait. Mais alors, quels sont les autres actes qui ont été posés aujourd'hui qui peuvent aujourd'hui encourager les uns et les autres à s'inscrire dans ces découpages sur les plans positifs?
Ok, voilà. C'est cette bonne décision que vous avez prise. Il ne fallait pas que le gouvernement puisse être par une politique active ou participative. Le gouvernement allait décentraliser une province à une autre, en facilitant l'installation effective de l'infrastructure, les bâtiments administratifs, en fait, les véhicules pour les exécutifs, les parlementaires, construction des écoles et universités, prenant le cas de notre nouvelle province de la Tchopa, parce que je suis du territoire de Bokungu, je peux aussi parler de Tchopa. Là-bas, dans notre nouvelle province, il n'y a aucune université, aucun bâtiment administratif, il n'y a aucun véhicule pour l'exécutif. Comment peut-on fonctionner toute une province sans pouvoir avoir une certaine méthodologie budgétaire? Alors, moi, personnellement, étant étudiant, comme cela n'a pas été fait, le bilan est déclaré négativement mélancolique.
Oui, on rappelle quand même, Élie, qu'il y a des provinces, des anciennes, des nouvelles provinces qui ont hérité quand même, qui étaient chefs-lieux des anciennes provinces, qui ont quand même hérité d'une certaine manière assez d'infrastructures, parce qu'ils ont existé avant le découpage, mais pour la Chopin, et là, il se pose un problème. C'est pour cela que nous avons évoqué tout à l'heure l'article 11 de la loi qui estimait qu'il y a dès la mise en place de ces provinces, le gouvernement central devait initier avec les autorités provinciales des projets, des financements d'urgence pour pouvoir faire face à tous ces problèmes d'infrastructure. Merci beaucoup. Mais quand même, vous avez encouragé le gouverneur, mais il se pose un problème au niveau des Tchopa. Vous estimez que là, il fallait une urgence d'action pour permettre à ceux qu'on ait l'infrastructure nécessaire ainsi que les moyens qui puissent permettre au gouverneur et à son vice et au gouvernement provincial de pouvoir fonctionner. Merci beaucoup, Élie de Mbandakea. Maître Adrien, vous êtes à Kanaga, dans la province du Kasaï central. Bonjour, maître, bienvenue. Maître Adrien, bonjour et bienvenue. Et pendant ces temps qu'on cherche à pouvoir améliorer la ligne de maître Adrien, nous appelons, nous avons Kisangani, maître Essamouli, vous êtes avec nous, bonjour.
Bonjour, monsieur.
Et nous faisons le point des 100 jours pour certains gouverneurs. Depuis le découpage, pensez-vous qu'il y a eu des choses qui ont été faites dans le sens de, comme on souhaitait bien sûr qu'avec ces découpages, on pouvait bien rapprocher l'administration des administrés et facilement initier des projets de développement. Est-ce que l'impression que vous avez au niveau de Kisangani, je crois bien que c'est la province de la Chopo, hein?
Oui, à ce que je peux dire à la province de la Chopo, à Kisangani, nous avons traité de faux bâtiments, de bons offices pour travailler. Mais, manque d'organisation, nous sommes sur le même plan. Le gouverneur n'a rien fait sur le plan de réalisation dans le bilan des 30 jours. Il n'y a rien de concret qui s'est réalisé. Nous avons, sur le plan du droit, nous allons prendre l'article 7 qui s'appelle 201. Il y a des matières qui sont réservées exclusivement au gouvernement central. Mais ici chez nous, nous voyons comme s'il y a des catastrophes qui règnent entre la province et la matière et les matières qui sont réservées au niveau national. Par exemple, je prends bien le cas de la police nationale. La police nationale est réservée exclusivement au gouvernement central et au ministre de l'Intérieur. Le ministre de l'Intérieur contrôle le gouverneur de la province. Mais le gouverneur de la province, aujourd'hui, je le vois promener avec les militaires. Bon, ça m'étonne pourquoi. Pourquoi ça? Mais en ce qui concerne l'article 201, les matières qui sont dans la 201 de ceci, le gouvernement provincial est composé des gouverneurs, son vice et le ministre provincial. Mais c'est ce gouverneur de présenter le ministre provincial au niveau de l'Assemblée. Les raisons évoquées qui manquent d'argent pour organiser les élections extraordinaires, nous disons c'est faux. Nous voulons les charrois automobiles de la gouvernorat de la Chopo. Ça embellit de tout le temps. Mais le gouvernement manque même l'aide pour habiter. Jusqu'à présent, je vous dis, c'est maintenant à l'époque du commissariat, le gouvernement des maires locataires, tandis que nous avons hérité de beaux bâtiments.
Vous avez dit, Maître Sabouli, que cela ressort de problèmes d'organisation, des problèmes aussi de confusion au niveau des lois pour savoir qu'est-ce que le gouvernement provincial doit faire, qu'est-ce que le gouvernement central doit faire. Mais alors aujourd'hui, parce que vous devez bénéficier du travail du gouverneur, du vice-gouverneur, du ministre et de l'ensemble de l'exécutif provincial, vous, qu'est-ce que vous auriez souhaité qu'il puisse être fait rapidement par le gouverneur aujourd'hui pour que, effectivement, les gens sentent les effets de ce découpage provincial, Maître Sabouli?
Mais c'est ce que moi je veux dire ceci. J'ai parcouru la Constitution, j'ai vu quelque part le président de la République peut se révoquer par la mairie. Je suis fort sur les compétences. Si nous voyons dans notre province, il y a les compétences qui règnent, je peux toujours dire que c'est prendre sa responsabilité. Nous ne sommes pas l'agrangage des obédiences politiques. Nous sommes là pour avoir quand même la vie de Xanamis en délire et prendre la belle robe. Nous sommes là pas pour en délire des couleurs de ce parti politique.
Mais quand vous avez évoqué, au cas où il y a des gestions, si ça ne marche pas, vous faites appel au chef de l'État, mais il y a aussi la responsabilité de l'Assemblée provinciale. Vous avez dressé ces tableaux, vous estimez que ça ne marche pas. Est-ce qu'au niveau de l'Assemblée provinciale, on a la même impression que ça ne marche pas, qu'on intervienne le gouverneur aujourd'hui pour qu'il donne des explications, par exemple, sur le fait que les institutions soient locataires, sur le fait qu'il n'y ait pas de moyens?
Je vais dire ceci, je prendrai le rang de la grande province orientale. Ah, je prends Arma Kissoumou qui est à Bouta. Arma ne fut pas député provincial. Maintenant que gouverneur actuel est député provincial, il connaît tous les manœuvres de l'Assemblée provinciale. L'Assemblée provinciale est compétente, je peux le dire, devant le gouvernement provincial. Il peut mettre la pression. Nous avons des problèmes de défrontissure. Nous avons le problème des réalisations des routes. Ça ne se fait pas. Nous disons que les gouvernements, il faut qu'il y ait un gouvernement qui se relève aussi.
Et là, c'est important, Maître Sabouli, vous estimez qu'il faut que l'Assemblée provinciale se relève. Quand vous dressez ces tableaux, il y a quand même un besoin aujourd'hui que vous, qui habitez cette province, vous ayez quand même des explications et que les choses soient améliorées. C'est sans votre souci. John, vous êtes au Nord Ubangi, vous gardez la ligne, on va revenir à vous. Plusieurs messages dans ce débat qui se déroule en ce moment même sur la page Facebook des Paroles aux Auditeurs. Timothée Moukili, qui est à Kananga au Kasaï Central, chez nous au Kasaï Central, bien que le gouverneur a l'apparence d'un homme qui a la volonté de développer la province, j'observe qu'il croit que la province du Kasaï Central s'élimite seulement sur la ville de Kananga, car il n'y a juste là des projets envisagés dans les territoires. Et la soi-disant ville de Chimbulu est encore un village du fait qu'il n'y a pas encore un programme pour son urbanisation. Moi, je trouve mieux d'évaluer les 100 jours en termes des projets entrepris pour l'avenir et non en termes des réalisations, car ça serait aller vite en besogne. Delvis Folo, qui est à l'Istala, le bilan est négatif. Pour d'autres provinces, par exemple, pour la province de la Mongala, où les commissaires spéciaux ont laissé l'éclairage public quelques jours après la remise des reprises, le chef-lieu de la province est dans l'obscurité. En plus, depuis la publication de l'arrêté provincial portant nomination des ministres provinciaux, chaque ministère ne fonctionne qu'avec un service minimum et les bureaux ne sont même pas équipés en outils informatiques et les tout se fait dans les cybercafés. Jusqu'à Valérie Ndjumbu, qui est à Bouya, c'est dans la province de l'Ituri, bilan largement négatif à l'Ituri, des routes impraticables, pas de budget pour la province, absence des autorités provinciales qui gardent les silences à chaque situation qui fait face à la province, insécurité généralisée dans la province. Comment voulez-vous que le gouverneur qui n'a pas encore déterminé son plan d'action puisse travailler et que nous puissions juger son bilan? Nous allons nous retrouver juste après quelques secondes avec John qui est au Nord Ubangi et à Dumaga qui est à Kisangani. Rejoignez-nous au 080-890-7315 pour votre intervention en direct.
Grâce à Internet, la radio d'aujourd'hui s'écoute aussi quand vous êtes disponible et pas seulement en direct. RadioKapi.net, téléchargez et conservez vos émissions préférées. Dialogue entre Congolais, parole aux auditeurs et au Kapi Service. Téléchargez l'émission de votre choix, vous l'écoutez quand vous le souhaitez. RadioKapi.net, la radio en différé à votre service.
John, vous nous appelez du Nord Ubangi. Bonjour John et bienvenue dans ces magazines.
Bonjour, merci monsieur le journaliste et bonjour à tous les auditeurs de la radio Okapi. Pour moi, je considère personnellement que faites pour faire le bilan au courant de ces 100 jours, c'est trop tôt. Parce que nous savons tous que les provinces ne vivent que par la rétrocession. Il vous souviendra qu'il y a un moment passé, les gouverneurs se plaignaient que la rétrocession ne venait pas comme elle devait venir. Et aujourd'hui, déjà, existe les provinces qui n'ont jamais existé. Nous commençons par faire déjà le bilan des 100 jours. Je pense que c'est trop tôt. Il faudrait un peu plus leur laisser le temps, de sorte que les infrastructures soient mises en place et que les assemblées se mettent comme il fallait, et notamment la création de nouveaux projets. Donc c'est, pour moi, j'estime que c'est trop tôt, monsieur le journaliste, trop tôt.
Mais vous avez, est-ce que vous avez quand même cette impression que, même si on estime que 100 jours c'est trop tôt, mais est-ce que dans ces 100 jours, vous avez quand même l'impression qu'il y a des initiatives, qu'il y a quand même une préoccupation à pouvoir gérer les provinces?
Oui, c'est vrai. Il y a quand même, nous lisons un peu cette intention. Mais vous savez, les nouvelles provinces, notamment, qui sont créées, sont gérées aussi de manière grandiose par l'État congolais, notamment le gouvernement central. Depuis lors, qu'est-ce que faisait le gouvernement central dans ces nouvelles provinces, dans ces provinces-là, qui existaient en termes physiques comme ça, mais c'est simplement une appellation actuellement qu'on dise nouvelles provinces. Mais en termes de projets, en termes d'investissement, elles ont existé il y a longtemps. En termes physiques, des terres, ça existait. Nous devons aussi nous demander quels étaient les projets du gouvernement en ce sens-là, pour simplement ne pas coincer aussi les gouverneurs qui viennent d'arriver à peine. D'abord, je veux vous dire une chose, c'est que même de l'eau à boire, ça n'existait même pas dans ces provinces, c'est très difficile. Pour avoir de l'eau purement comme ça, les gens peuvent boire, c'était déjà difficile. Donc, fermement, moi, j'estime que tout revient aussi au gouvernement central. Je supplie à ce qu'on regarde aussi la situation de ces provinces-là par le gouvernement central. Ça ferait un peu beaucoup plus. Je vais vous dire une chose aussi importante, c'est que, imaginez-vous les anciennes provinces. Prenons par exemple les cas de la province du Congo central, aussi bien par exemple la province orientale. Ce sont des provinces qui existent il y a longtemps, mais quel est le niveau des infrastructures actuellement?
C'est-à-dire que les problèmes existaient déjà en amont, et maintenant qu'il y a eu ces découpages, ces entités ont existé avant, bien sûr, les découpages qui avaient déjà des problèmes, et vous estimez qu'il faudrait qu'on laisse passer des temps aux nouvelles autorités pour pouvoir initier des projets et travailler. Mais rappelons quand même la responsabilité du gouvernement central, John, elle est vraiment assez importante, parce que la loi de mise en place de nouvelles provinces avait insisté sur le fait qu'il y ait le gouvernement central devait initier avec les gouvernements, les autorités provinciales, des projets rapides en termes d'infrastructures, d'équipements, et on attend cela, et c'est très très important. Dès lors qu'on sait déjà que la plupart des provinces ont des difficultés pour la mobilisation des ressources, y compris aussi les difficultés des rétrocessions. Merci beaucoup, John, de nous avoir appelé du nord au Bangui. À Doumaga, vous êtes à Kisangani. Bonjour à Doumaga.
Bonjour monsieur, bonjour Radio Kassi, bonjour à tous les auditeurs de la Radio Kassi.
Et tout à l'heure on était avec Maître Sabouni, si vous l'avez suivi, il a quand même dressé un tableau où il estime qu'il y a des confusions aujourd'hui, et pour lui, il y a un problème d'organisation au niveau de la province de la Tshopo, où il estime qu'il y a une urgence pour que le gouverneur qui est l'Assemblée provinciale se réveille, pour en réalité qu'on voie dans quelle direction la province doit évoluer. Quelle est votre impression par rapport à ces jugements? Est-ce que vous pensez du travail qui est fait?
Oui, moi aussi je m'aligne derrière ce que mes prédécesseurs ont dit, parce que il est vrai que l'idée de la création des nouvelles provinces, c'était de rapprocher l'administration des administrés, mais sur les terrains, c'est le contraire, monsieur le journaliste. Parce qu'en faisant le bilan des 100 jours, tellement, le bilan, je le dirais vraiment que c'est mitigé. Parce que la création de nouvelles provinces allait peut-être booster le développement des nouvelles provinces. Nous voyons par exemple à Tshopo, il y a les délestages, il y a pas de routes. Même la province du Haut-Kouéné, telle que le député honorable Diane Paulin avait dit, il n'y a pas de routes. La route Nyanya, ils virent chaque population, c'est la masse, nous passons vraiment que avant. les commissariats égalent les commissariats. Nous voyons qu'il n'y a pas vraiment de volonté politique. C'est ce que nous pouvons dire comme contradiction.
Et d'ailleurs, parce que vous avez évoqué, de nous avoir appelé de Kisangani, parce que vous avez évoqué cette question de la route Nyanya-Issiro, rappelons quand même, tout à l'heure, quand on était sur notre page Facebook dans ce débat, il y a Germain Tabassé qui nous a écrit d'Issiro dans la province de Haut-Uele. Il dit que s'il n'y a pas eu un nouveau projet initié, c'était encore un programme des commencements des cinq chantiers, selon la vision du chef de l'État, et la restauration des sécurités dans les parties menacées par le rebelle ougandais de la LRA. Il y a des jours qu'une nouvelle coupure du ruban pour la réhabilitation de la route Nyanya-Issiro. C'est une troisième coupure de ruban pour un troisième financement pour la réhabilitation de la même route qui n'a jamais été réhabilitée. Et il parle aussi de l'augmentation des biens de première nécessité par rapport au problème de route aujourd'hui. Il estime que c'est une préoccupation. Et vous, Ademaga, vous avez dit que le bilan est mitigé. Le problème de délestage est à Kisangani, mais vous auriez souhaité quand même qu'il y ait un changement, que les gens sentent que le découpage devait apporter le développement. Baskango Irene, qui est en Colosie dans la province du Lualaba, il dit, d'après moi, le bilan des 100 jours des gouverneurs dans la province de Lualaba est vraiment positif. Par exemple, nous avons des cités qui n'avaient pas d'eau à boire, mais le gouverneur est intervenu avec des forages. Depuis aujourd'hui, nous avons l'éclairage public presque partout dans les avenues de Colosie. Nous voyons chaque jour la réhabilitation des routes et la lutte contre la réhabilitation des routes. Il y a aussi des hôpitaux qui sont réhabilités ainsi que des écoles. Alors il dit, mais le problème qui reste aujourd'hui dans la province de Lualaba, c'est le problème du chômage. Et bravo au gouverneur Mouyiji pour les efforts fournis depuis ces 100 jours à la tête de la province. C'est les témoignages des Basques Angoï René. Alors, André, vous êtes à Kananga, au Kasaï central. Tout à l'heure, j'ai lisé le message de Timothée Mokini, dans la même ville, qui estime que oui, bon, le gouverneur est là, mais plus les actions sont menées dans la ville qui est dans les autres territoires de la province du Kasaï occidental. André, quel est votre point de vue par rapport à cette lecture?
Merci Pierrot pour m'avoir accordé la parole. Pour moi, franchement, le bilan de son excellence monsieur le gouverneur Kandalex est largement positif. Pourquoi? Parce que la ville de Kananga, à l'époque, était dans l'obscurité. Aujourd'hui, nous sommes tous électrifiés partout avec l'entreprise Megatron. Mm-hmm. C'est presque la population qui est totalement joyeuse de voir une ville qui était dans l'obscurité aujourd'hui éclairée. Et en plus de cela, une ville qui était qui utilisait comme moyen de transport les motos, on voit des discussions un peu partout. D'ailleurs, même la population s'est mobilisée largement de pouvoir faire des cotisations pour entrer dans les bus, de façon que la caisse du trésor public de notre gouvernement provincial puisse avoir de l'argent qui pourront essayer d'entraîner des effets d'entraînement sur d'autres projets qui pourront développer la province. Et ce que je voudrais aussi ajouter à nos amis qui font le message, comme Timothée Moukinike, c'est un problème d'information parfois parce que ce sont parfois des jeunes gens qui ne savent plus ce qui se passe au niveau du gouvernement provincial.
Mais rappelons quand même, André, que Timothée n'a pas dit le contraire de ce que vous. Pour lui, il estime que les efforts ont été constatés au niveau de la ville, mais pas au niveau des autres territoires. Je crois que c'est ça le sens du message. Il dit le gouverneur a la bonne volonté, mais les actions sont menées dans la ville, les transports en commun c'est dans la ville, l'électricité c'est dans la ville. Il estime que les territoires ne bénéficient pas vraiment des actions du gouvernement provincial. C'est voilà un peu le message de Timothée.
Non, je voudrais dire que présentement que nous sommes en train de vous parler ici, presque tous nos cinq territoires ont un programme réel de réhabilitation d'entretien des routes de dessert par Aquilcor qui sont en train d'être menés par l'entreprise Office des routes. Mm-hmm. Ce sont les ONG locales, les entreprises sont en train de faire ces routes. La route de Bunkonde, ce sont les ONG qui sont en train de réhabiliter avec le financement de l'Office des routes. La route qui quitte Kananga, Bilomba vers Louisa, qui passe par, qui vient se déverser sur la route qui va vers l'Angola, c'est l'Office des routes qui est en train de faire avec les ONG locales. Mm-hmm. Tous les cinq territoires ont un marché. On est en train de construire le marché par le programme d'appui au développement d'infrastructures rurales, un projet PADIR qui est sous la supervision du gouvernement provincial. Je vous dis que les entreprises sont à pied d'œuvre dans tous les territoires avec ce financement des BAD. C'est sous la supervision du gouverneur de province. C'est un problème parce que les jeunes enfants n'ont pas d'information de ce qui se passe dans la province.
Voilà, merci beaucoup, mais c'est quand même important quand même qu'il y ait les actions aussi des communications au niveau des provinces, parce que vous avez parlé de l'information, c'est aussi l'importance des gouverneurs. pouvoir communiquer, des ministres provinciaux de communiquer pour que cette information, ces informations soient relayées dans l'ensemble de la province, qu'il y a des actions qui sont menées, et pour vous, le bilan est positif, car il y a électrifié, il y a aujourd'hui les bus pour les transports en commun, et ça c'est dans cette période de la nouvelle province. Merci beaucoup André Bouchiri, vous êtes à Kindu, qui n'a pas été concerné bien sûr par les découpages, mais on vous écoute Bouchiri.
Bonjour, monsieur le journaliste. Allô, bonjour, monsieur le journaliste.
Oui, bonjour, Bouchiri, on vous écoute.
Bon, moi, je suis au Maïma, malgré nous ne sommes pas intéressés sur ce problème, je voudrais juste saluer le ministre national de la décentralisation à la qualité et la force de partager les Congo en 26 provinces. Selon moi, les bilans sont toujours positifs parfois, et d'autre part, les bilans sont négatifs. Pourquoi? Parce que je dis ça. Par exemple, chez nous ici au Maniema, malgré nous ne sommes pas concernés de ça, depuis que le Maniema a été Maniema, la route qui mène Kindu vers la province de Lusambo, je n'ai jamais vu les véhicules passer. Maintenant, je vais regretter les gens qui sont dans les nouvelles provinces. Ils sont en train de regretter concernant ça. Bon. Nous qui étions Maniema, ça fait des années et des années, on ne regrette plus. Et eux qui sont, donc, qui comptent seulement 100 jours ici, ils regrettent concernant cette situation.
Ici, et Maniema, vous êtes habitué avec les situations, oui.
Il y a des bureaux, parfois des bureaux de notre province ici, il y a d'autres bureaux qui sont dans des maisons privées. Et je regrette concernant ça. C'est notre habitude. Je vais seulement demander à nos amis de garder toute patience, puisque nous sommes dans une période de manquement d'argent. Nous sommes dans la politique monétaire. Ils gardent un peu patience.
Mm-hmm.
Si le Congo, c'est le Congo demain ou le lendemain.
Et les choses pourront changer. Voilà. Alors, pour vous, Bouchiri, vous estimez que les gens qui sont dans la nouvelle province et qui se plaignent, ils n'ont pas raison de se plaindre parce que vous êtes dans la province de Maniema et vous êtes habitué à vivre, hein, comme vous vivez, avec les difficultés, les routes, les problèmes des services publics qui n'ont pas des bureaux, qui sont logés dans les maisons des privés, et vous estimez que les amis qui sont dans la nouvelle province ne peuvent pas se plaindre alors qu'ils n'ont que 100 jours. Vous qui avez déjà fait longtemps dans ces conditions, de quelle manière vous pourriez-vous aujourd'hui vous plaindre ou vous adresser aux uns et aux autres? Merci beaucoup, Bouchiri. Professeur Ignace, je crois bien, vous êtes en Colombie, dans la province de Banaba. Bonjour.
Bonjour et merci de m'avoir associé à cet échange.
Oui, tout à l'heure, on était avec...
qui concerne...
Oui, je disais que tout à l'heure, on était avec un compatriote sur la page Facebook qui estime quand même qu'il y a beaucoup de portes qui ont été fournies, hein, pour la province de Banaba.
C'est vrai, je le reconnais. En commençant par cela, il y a des efforts dans le sens du chauffe-eau. Il y a des puits qui ont été forés dans les différentes contrées de la ville de Colusi d'abord, mais les travaux ne sont pas achevés. Moi-même, je suis concerné, je suis dans un milieu où des puits ont été forés, il y a des citernes qui sont placées, mais l'eau n'est pas encore fournie jusqu'à présent. Je crois que déjà l'initiative est bonne. Il y a aussi le cadre des routes, n'est-ce pas, pour décongestionner les grandes artères de la ville de Colusi. Il y a des grandes avenues sur lesquelles les travaux sont en train d'être menés. Il faut aussi penser à un projet de partenariat avec une entreprise chinoise en ce qui concerne la fourniture en électricité. Mais il faut le dire sincèrement, le problème reste encore majeur. La grande partie de la ville de Colusi n'est pas fournie en électricité. Il y a donc des situations. Au moment où je vous parle, il y a une grande partie de la ville qui n'est pas fournie à des logements. Ce sont des défis.
Vous estimez que ce sont des défis.
Le problème majeur reste ceux de créer de l'ouverture de Colusi avec les cités périphériques. Je vous ai ignoré qu'avant, la ville de Colusi était beaucoup plus ouverte sur Lubumbashi, mais maintenant il faut vraiment des travaux pour l'ouvrir sur
c'est vraiment tout ça, professeur Ignace Ndala, on ne peut pas faire ça dans 100 jours. Mais il y a notre ami Bouchir qui disait tout à l'heure que se plaindre pour les 100 jours, c'est pas pour lui, il trouve qu'on ne peut pas se plaindre parce qu'il y en a qui sont dans d'autres provinces qui sont habitués à vivre ces genres de choses depuis plusieurs années. C'est pas quand même en 100 jours qu'on peut mener tous ces grands projets, réaliser tout ça. Mais est-ce que pour ceux qui développent les désespoirs, vous avez suivi, je sens de voir encore sur la page Facebook des Paroles aux auditeurs, Félix Monsalta qui nous a écrit de Kisangani, qui dit bon, pour nous, c'est, on dirait pas tellement une désillusion, mais ce sont les espoirs déçus parce qu'on ne se rend pas compte que la manière dont ça s'est fait aujourd'hui dans notre province, que les découpages peuvent facilement nous amener au développement. Alors, les efforts doivent être fournis à quel niveau, que ce soit le gouvernement central ou les gouvernements provinciaux, pour remettre ces espoirs à la population par rapport à ces découpages?
Alors moi, je pense que c'est d'abord un problème de... Chaque fois que le gouvernement se met à faire quelque chose, expliquer. Alors, vous savez, l'histoire de décentralisation, je suis en train de le suivre toujours. On n'a pas eu assez de temps pour sensibiliser la population à comprendre. Il s'agit d'un processus qui a commencé. Et il faut lire cela à travers la volonté des décideurs provinciaux par rapport à leur rapprochement avec les administrés. Ici, il faut bien de le dire. Strasbourg ne peut pas servir à constituer un plan de fausse volonté. Il y a des initiatives qui créent de l'espoir. On touche un peu au grand secteur vitaux de base et ça montre que avec un peu de moyens, cela ne peut pas se faire. En ce qui concerne par exemple notre province ici, il y a un projet de budget qui venait d'être déposé. Je pense que c'est avec cela que les vont être menés et avec cela, on pourra juger de l'action du gouvernement par rapport aux avoirs. Je dis aussi qu'il y a des initiatives dans un autre domaine de recettes, n'est-ce pas? Il y a la sensibilisation de la population, la mise sur pied et des animateurs et des structures à la division des recettes du Galaba, la Gerlou, ils sont en train de s'affairer pour petit à petit commencer à les caisses de la province et petit à petit sortir de la logique selon laquelle le chef-lieu n'est pas la province. Donc il y a des initiatives, il faut reconnaître, et on peut leur donner encore du temps. Parce que je ne faut pas oublier que c'est la continuité. Les animateurs de la... C'est ceux-là qui ont été les gouverneurs spéciaux et je crois qu'ils continuent les travaux. Il y a par-ci, par-là des actions.
Voilà, c'est important. Mais quand même, vous l'avez dit, c'est du rôle aussi du pouvoir public de pouvoir sensibiliser la population, parce que c'est un processus, la décentralisation, c'est un processus, il faut arriver à expliquer à la population qu'elle puisse comprendre et s'intégrer. Mais quand même, les actes qui doivent être posés par les animateurs de gouvernement provinciaux doivent aussi apporter une certaine garantie auprès de la population pour qu'elle puisse effectivement épouser ces projets et pouvoir les soutenir. Jean-Luc Moukoutou, qui est à Lubumbashi, il dit que je pense qu'en général le bilan n'est pas appréciable. Il y a des provinces dépourvues des moyens financiers et qui sont incapables d'initier des grands projets. Par contre, d'autres ont hérité d'une bonne situation du démembrement ils peuvent faire quelque chose. Le cas notamment du Haut-Katanga avec le projet du village agricole initié par l'exécutif provincial. Ça a été encouragé et évoqué tout à l'heure par Maître Sonville qui était avec nous à Lubumbashi. Nous restons à Lubumbashi avec Ismaël. Bonjour Ismaël.
Bonjour Pierrot, merci, bonjour à tous les auditeurs de la Radio Capitale.
On vous écoute Ismaël.
Ok, je comprends que vraiment le bilan de l'évolution de ceux qui ont été investis, il semble, on ne peut pas dire du tout, non, il n'y a pas de problème, il n'y a pas quoi que ce soit. Ils ont un peu s'asseoir et faire l'analyse de tout ce qui ont fait, tout ce qu'on a fait et tout ce qui ne marche pas. Mm-hmm. Moi, je comprends que pendant 100 jours, je sais que le bilan est un peu mitigé là. Parce que si je sais bien, il y avait aussi des provinces qui avaient connu l'évolution. Mais présentement, on ne peut pas dire que tel compte est avancé par rapport à l'autre. Je peux vous donner l'exemple de là-bas.
les gouverneurs. C'est un monsieur de la politique. Il connaît sa stratégie. Il sait comment faire développer sa province. Par exemple, on avait le problème de sécurité. Lui-même, cette affaire Poitiers est ouverte réellement. Et ce qu'il a dit, c'est réel. Les gens. Là, c'était de traiter la population, soit la nuit, soit pendant la journée. Mm-hmm. Et vous lâchez, soit dans la province de Okatanga, c'est une province qui avait connu déjà des avancées, ça fait si longtemps. Le présentement, disons, dans le bilan n'est pas, disons, en marche. Et on ne peut pas dire quelque chose. C'est tout ce qui existe aujourd'hui, c'est ce qu'on a vu, ça fait si longtemps. Et on a fait un côté, nous avons vu que nous avons connu des problèmes et des difficultés. Et on a vu des avis pour le sujet, je ne saurais pas revenir sur les politiques, parce que la crise est nationale plutôt que provinciale.
Bon, pour vous, vous estimez, Ismaël, qu'il y a des provinces, on ne peut pas dire que les unes ont connu des avancées par rapport aux autres, parce qu'il y en a fait qui avaient déjà bénéficié.
Ça ne peut pas être seulement ici au centre-ville, nous voulons avoir à l'intérieur.
Un peu plus loin, voilà, c'est ce qui a été dit par les autres. Mais du coup, déjà qu'il y avait des provinces qui avaient bénéficié dans le découpage déjà d'une certaine avancée en termes d'infrastructures, en termes de moyens, on ne peut pas les comparer aux autres. Mais si vous avez aussi évoqué le problème de l'expérience, ça veut dire qu'il y a aussi des provinces qui sont dirigées par de ceux qui étaient déjà dans la politique, ceux qui étaient déjà engagés, et d'autres aussi où il y a de nouvelles personnes qui sont entrées en politique. Mais pour vous, vous estimez qu'il faudrait quand même donner du temps pour que tout cela soit réalisé. Mais les provinces sont victimes de la crise d'une manière globale qui s'est dit au niveau du pays, ça c'est en termes économiques. Merci beaucoup Ismaël Salamba, vous êtes en Bandaka. En attendant, Polydor Moyenga dit ceci, la province de la Chopo n'a pas un gouvernement provincial, comment peut-on parler d'élaboration des projets, des développements, alors que le gouverneur a nommé ses membres, ils n'ont jamais été investis, dans les conditions, ça sera difficile que nous puissions arriver à évaluer cela. Aristala, Cédric Pekana, depuis la mise en place de ces nouvelles provinces, la plupart peinent à exécuter les travaux d'envergure, comme par exemple les problèmes de route des dessertes agricoles. Le grand problème, c'est le moyen. Le gouvernement central, nous ne pensons pas qu'il mette vraiment les moyens conséquents à la disposition de ces provinces pour qu'elles puissent faire face aux problèmes réels qui se posent. Salamba, vous êtes avec nous de Mandaka. Bonjour. Salamba, pourriez-vous, s'il vous plaît, en attendant, je vous puisse arrêter votre poste récepteur. On va écouter Salomou qui est à Kisangani. Salamba, vous avez le temps d'arrêter votre poste récepteur. Nous allons revenir à vous. Salomou, vous êtes à Kisangani. Bonjour, Salomou.
Bonjour, monsieur le journaliste.
On vous écoute, Salomou.
Monsieur le journaliste, selon les analyses que je fais ici à Kisangani, précisément tout dans la province de la Tchoupo, je pense que le bilan est vraiment négatif. Du fait que, depuis que monsieur le gouverneur a publié la liste de son gouvernement, de son ministre, on ne voit rien. Mais si nous nous rappelons du fait que la fois passée sur le plan de l'énergie électrique, depuis que le gouvernement actuel accéder donc à la gestion de la province, il y a que des hommes. Parfois, il y a des gens qui vivent de l'électricité, mais vous allez voir aujourd'hui, il n'y a rien du tout de délestage. Donc, ça, ce n'est plus encore de délestage. Nous allons appeler ça, c'est un manque total. Alors, si nous allons dans le cas des risques de sortie agricole, si nous nous rendons, nous voyons directement la route qui mène vers Ubundu, qui part jusqu'à Kindu dans la province de Maniema, vous allez vous rendre compte que la route est vraiment en état de délabrement. Il n'y a rien. Vous allez voir des ingénieurs passer là, regarder, il n'y a rien du tout. C'est que je pourrais dire
Et là, vous avez les autres qui ont estimé qu'il y a encore beaucoup d'efforts qui doivent être fournis au niveau de la province de la Tchopo. D'abord, c'est l'ensemble des anciennes provinces orientales où on a ces problèmes d'investiture de gouvernements provinciaux. Vous avez suivi les témoignages tout à l'heure avec l'honorable Paulin Ouedjane qui est député provincial. Et vous estimez que le problème majeur, comme la forme d'électricité aujourd'hui se pose encore dans la ville à Kisangani, c'est plus de délestage, mais c'est presque l'absence d'électricité. Pour vous. Est-ce que Salamba est revenu avec nous sur les antennes? Salamba est avec nous en ce moment. Salamba, vous êtes avec nous? Et là, on a eu petit souci des lignes avec vous. Pourriez-vous rapidement placer les mots, parce que là, on est en train de descendre vraiment vers la fin de cette émission à Salamba.
Bon, je voulais juste contribuer pour le cas de mon ami qui vient juste d'intervenir là à propos de
des mandats d'Aoui.
Je voulais juste dire ceci, hein. Nous sommes dans le Congo, tu sais, c'est comme si il y a un bébé qui vient de naître, ça demande plus de temps, qu'il prend le temps comment dirais-je,
du temps pour grandir, pour s'adapter. On a perdu même Salamba, Mardouchie qui nous a quitté à Koma, et To qui est à Badoliti, se sont exprimés sur la page Facebook où les débats continuent. On termine avec vous rapidement, Timothée, vous êtes à Kananga, en une minute votre point de vue pour que nous puissions conclure cet échange. Timothée, bonjour et bienvenue. Timothée, vous êtes avec nous?
Oui, je suis avec vous. Ici, chez nous, représentants, nous voyons qu'avec lui, qu'il a le gouverneur de la province, Alex Kandé, nous voyons que c'est quelle personne qui a cette volonté-là de développer notre province. Mais ce que nous constatons, c'est que c'est comme s'il croit que la province du Kassai central se limite seulement sur la ville de Kananga, alors qu'il n'y a pas d'autres projets qui sont initiés à travers le territoire. Et par exemple, avec notre route que nous avions ici, la route qui mène de la ville vers l'aéroport, depuis qu'on a arrêté les travaux, il n'y a aucun avancement. Nous croyons peut-être que le gouvernement devrait aussi se concentrer dans d'autres territoires en initiant des projets infructueux.
Et d'ailleurs, Timothée, parce qu'on ne sera pas allé plus loin tout à l'heure, André vous a contredit, parce que c'est ce que vous avez dit sur la page Facebook dans les débats que nous avons. André lui a estimé qu'il y a beaucoup de choses qui sont faites, que ce soit dans la ville, dans les territoires, beaucoup de projets, mais c'est vous peut-être qui n'avez pas l'information. C'est pourquoi nous avons demandé à ce que les exécutifs provinciaux puissent communiquer assez. Merci, Timothée, on ne sera pas allé plus loin. Nous vous disons merci à tous les auditeurs. Vous avez été nombreux à commenter ce sujet, nombreux aussi dans d'autres provinces. N'ont pas eu l'occasion de s'exprimer. On pourra se retrouver prochainement pour voir comment évolue ce processus de décentralisation, les actions qui sont menées à la base. Merci à Gilles Longuembo qui est à la réalisation et coordination de ces magazines mis en onde par Hippolyte Kapanga. Pierrot et Lamé, j'ai eu le réel plaisir de vous le présenter sous la supervision de Martin Sebujangoué. Parole aux auditeurs, c'est sur www.radiocapi.net. Au revoir et surtout ne vous déplacez pas, le programme continue sur la Radio Capi. Merci de votre fidélité. Thank you.